Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis. Je t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, on laisse-moi.
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ben, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo.
Delon en 9 épisodes.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez, vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Deuxième épisode, le pur sang. On se souvient que dès ses débuts au cinéma, Alain Delon avait été qualifié de « pur sang » par l'une des actrices phares de l'époque, Edwige Feuillère. En incarnant ses premiers grands rôles sous la direction de cinéastes français aussi différents que René Clément, Alain Cavalier, Robert Henrico et Henri Verneuil, entre autres, le pur sang multiplie les expériences et bâtit sa légende film après film. C'est le propos de ce deuxième épisode. Ou comment Delon devient Delon.
Le perfectionnisme a toujours été là. Puis le professionnalisme, ça s'acquiert avec le temps et avec le travail et avec les connaissances. Alors perfectionniste, je l'étais toute ma vie. Même quand j'étais charcutier, j'étais perfectionniste. Alors bon, pourquoi pas dans le cinéma ? Vous savez, je crois que la première intelligence, c'est de savoir observer, de savoir regarder, de savoir apprendre. Moi, j'ai eu la chance, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai pas grand mérite. Parce que j'ai eu la chance très jeune, à cette époque-là, de regarder travailler, d'apprendre à travailler par Clément, par Visconti, par ces gens-là. En 2 ans, j'ai tout appris. Et en 2 ans, j'ai scellé toute ma carrière. Simplement en regardant ce que faisait Visconti, et en regardant comment travaillait Clément, et en regardant comment travaillait Antonioni. Et j'ai tout compris. Et je l'ai très peu retrouvé dans ma vie après. Je ne l'ai retrouvé que chez Melville, que chez Lauzet, un peu chez Blier, et c'est à peu près tout.
C'est pas beaucoup sur 80.
Mais non, c'est pas beaucoup. Mmh. Parce que ça, c'était ce que ma compréhension à moi de ce qu'est un homme de cinéma, parce qu'il manque un nom qui est à la fois le réalisateur, le metteur en scène et le directeur d'acteur.
Au commencement était René Clément et son film Plein Soleil, sorti sur les écrans le 10 mars 1960. Bien des années plus tard, sur France Inter, au micro d'André Asseo et Jean-Claude Loiseau, Delon revient sur ce qui n'était après tout que son 6e film. Mais déjà, Delon, c'est le patron, avec une fois encore, une femme en soutien.
C'était Maurice René, dans le fond, c'est ça la vraie histoire. C'est Maurice René qui devait faire le rôle, mon rôle, et moi je devais faire le rôle de Maurice René.
Et vous avez refusé ?
J'ai refusé. Alors là, l'histoire, il faut la faire très courte, parce qu'elle est plutôt...
C'est du culot, hein, quand même. Hein.
Oui, je me suis retrouvé un soir avec les frères Hakim, René Clément, Bella Clément, tout ça dans l'appartement de la rue Henri Martin, et j'ai refusé devant les frères Hakim, qui m'ont insulté en me disant « Mais comment, petit jeune homme, vous permettez devant Clément de refuser un rôle de cette importance ?»
C'était quasiment etc. les plus grands producteurs de l'époque, les frères
C'était
Hakim.
Les producteurs ouais. les plus importants de l'époque. Ouais. Et j'ai dit « Écoutez, je refuse pas, je vous dis ce que je pense. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Je pense que c'est une... j'ai pas employé le mot à l'époque, je ne le connaissais pas. Un miscasting, je pense que c'est mauvais. Le rôle, ça va pas. C'est moi qui devrais faire... C'est très difficile de dire devant ces gens-là et parlant de Maurice René, c'est moi qui devrais faire son rôle et lui ouais. qui devrait faire le mien. Il faut le...
Ah oui, oui,
bref,
il fallait
je
le faire.
Fais un exposé à l'époque, parce qu'il est quand même assez connu dans l'histoire, et un petit peu célèbre, et j'explique pourquoi. Après m'être fait copieusement insulter, m'ayant entendu, mais c'est pas grave, on en trouvera un autre, le film se fera sans vous, on a fait d'autres films dans notre carrière sans vous, j'ai dit très bien, moi j'ai fait d'autres choses, je continuerai. Bref, je fais cet exposé comme ça dans un grand silence, puis à la fin, je m'arrête. Et à ce moment-là, ça a été fabuleux. Ça, je suis très ému quand je me souviens de ça, parce qu'il y avait Bella Clément, qui était très, très important dans la carrière de René Clément. C'était la tête pensante, qui était assise dans un coin de la pièce, qui ne s'était pas manifestée depuis lors. Et dans ce silence, on a entendu « René chéri, le petit a raison ». Ça a été fini.
Formidable.
Ça a été terminé.
Et les frères Hakim...
Silence, rideau, moteur, et on a fait le plein soleil avec le rôle de Greenleaf, qui était moi, et je crois que personne s'en est souvenu après, tout le monde l'a oublié, tout le monde a trouvé ça tout à fait logique, normal, et très bien comme
bien
ça.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que vous saviez de vous-même qui vous rendait aussi sûr de ce que vous disiez, en disant c'est moi ça, c'est
je ne peux pas vous le dire, parce qu'il y a trop longtemps, c'était à la lecture. C'est vrai que tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert finalement quelque part peut-être mon don. Je sentais les choses. D'abord, j'ai un instinct, cet instinct animal que j'ai toujours eu, mais je savais lire les choses. Mmh. Je le sentais. Et comme je le sentais, je l'exprimais. Et c'était pas toujours bien su, effectivement. Vous savez, je crois que toute ma vie, je me suis toujours exprimé comme je l'ai senti. Ça a toujours été, ou 9 fois sur 10, ou 5 fois sur 10, très mal reçu et très mal interprété. Pourquoi ? Ça n'a jamais été une provocation. J'ai toujours été ce que je suis et j'ai toujours dit les choses telles que je les pensais. Vous savez très bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, que la diplomatie, ça existe. Je ne suis pas un diplomate. Bon, donc je me suis toujours confié comme je le sentais, en dépit de tout, parce que j'estime que c'est comme ça, et puis parce que je suis comme ça, et c'est pas maintenant que je vais changer.
Dans Plein Soleil, Delon, alias Ripley, finit par tuer le personnage incarné par Maurice René, non sans l'avoir à deux reprises imité et caricaturé, y compris en sa présence.
Ouais, mes affaires. Je m'amusais. Et mes chaussures aussi. Ça va pas ?
Pour la première fois, Delon joue avec la notion de double, de jumeau et de reflet. Et ça ne sera pas la dernière fois. On aura l'occasion d'y revenir.
Et maintenant que nous sommes seuls et tranquilles, reprenons cet intéressant bavardage.
Avec plaisir.
Donc vous me tuez. Bon. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ?
Je vous inhume pieusement.
Et après ?
J'imite votre signature et je signe vos lettres de crédit.
Ce ne sera pas si commode.
Tout s'apprend.
Bien entendu. Ah ! Boucle d'oreille, c'était vous ?
Non ?
Allons, ne mentez pas.
Bon, d'accord, j'avoue.
Nous réglerons ça plus tard. Quand je vous ai surpris devant le miroir, vous parliez comme moi. Recommencez.
Oh. Je disais...
Marge, ma chère Marge, mamie, m'amour. Le vilain monsieur ne nous séparera jamais. Je ne rentrerai pas à San Francisco et il n'aura pas ses $5,000. Tout ce qui se dresse entre nous, je le détruirai.
René Clément sera donc le premier maître, vite rejoint par Visconti et Melville dans le panthéon personnel de Delon. Sa sainte trinité professionnelle, en quelque sorte.
Clément, je l'ai toujours comparé à Karajan, Van Karajan. Clément, c'était, je crois, le plus grand directeur d'acteurs français. Et ça, même les Américains qui ont travaillé avec lui l'ont dit, comme Anthony Perkins et cette actrice merveilleuse dont vous avez les souvenirs, le nom, Monsieur Loiseau, qui était la mère de James Dean dans À l'Est d'Éden, qui a travaillé avec lui dans Barrage sur le Pacifique.
Voilà.
Qui a dit jamais qui avait travaillé avec Kazan, c'est une référence quand même dans À l'Est d'Éden, a dit jamais de ma vie je n'ai été dirigé comme par Clément.
Et Clément. Quelle était la caractéristique de René Clément comme directeur d'acteur ?
Directeur d'acteur, metteur en scène et cadreur. Clément avait appris son métier avec Jacques Tati, c'est quand même une petite référence.
Et de son côté, René Clément le lui rend bien.
C'est un homme qui demande à avoir une certaine confiance. Il avait très confiance en moi. Il a très confiance en certains hommes avec lesquels il travaille. Et quand il a cette confiance, qui j'espère est en effet bien placée, vous obtenez des choses étonnantes de lui. Il fera tout, absolument tout, pour obtenir exactement ce que vous voulez. Il est d'une attention extraordinaire.
Le philosophe Paul Audy, grand connaisseur du cinéma de Delon. nous éclaire sur ce rôle dans Plein Soleil, manifestement fondateur et déterminant.
Quand il s'empare du rôle de Ripley, ben en fait, il s'empare d'un rôle qui va lui coller à la peau et qu'il va décliner ensuite autrement à travers d'autres histoires, d'autres formulations. Mais c'est comme une scène primitive, là. On a affaire à quelque chose qui, à la fois, est une naissance d'Alain Delon au cinéma et une naissance d'Alain Delon à sa fonction d'acteur. C'est-à-dire qu'il n'envisage la fonction d'acteur que pour arriver jusqu'à moi, il faut que je passe par un autre. Il ne peut pas faire autrement. Il ne sera jamais lui-même s'il n'aura pas incarné tel ou tel personnage. Et c'est dans cette incarnation qu'il retrouve une forme d'unité avec lui-même.
Après Plein Soleil, le duo Clément Delon se reforma à trois reprises. Avec Quelle joie de vivre d'abord, qui, comme Plein Soleil, se déroule en Italie, mais qui, à son exact opposé, est l'une des rares, très rares comédies réussies de Delon. Puis viendra Les Félins, un drôle de film, avec Jane Fonda, dans un face-à-face vénéneux avec Delon.
Ce soir, je ne boirai pas de café. Et je vais aller au cinéma.
Et vous m'emmenez ?
Non. Pas vous. Moi. Tout seul.
Je suis en disgrâce ?
Jusque-là.
Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
D'abord, votre café me donne des cauchemars. Je vous quitte au soleil ? Je vous retrouve à la gare. Et je n'obtiens aucune réponse à toutes mes questions.
Notons quand même que le pur sang Delon y incarne un gigolo. Et c'est une figure qui interroge, puisqu'elle rompt avec certains codes de la virilité, comme nous l'explique ici la journaliste et critique de cinéma Muriel Joudet.
Alors, il y a plusieurs films qui thématisent cette idée du gigolo. C'est là où sa masculinité a quelque chose de... Pour moi, n'est pas du tout une affaire de virilité. Même, je trouve que quand il joue les truands, les loubards, j'ai toujours l'impression de voir un petit garçon jouer avec des jouets, des costumes. Il me fait penser à Leonardo DiCaprio dans ce registre-là. Vraiment, ce côté enfant qui joue avec des armes, avec des chapeaux, avec des pardessus, c'est très sensible chez Melville. Et cette histoire de gigolo, je trouve que ça le... C'est parce qu'il a été très beau. Et qu'est-ce qu'on fait de la beauté ? Si ce n'est une promesse de bonheur, si ce n'est une promesse de plaisir. Et il y a un film qui a thématiser ça, c'est Les Félins, qui thématise cette histoire de Delon fabriqué par les femmes, hein, puisque il joue au début du film, c'est l'amant d'une femme qui est traqué par le mari de cette femme et qui doit se cacher, qui finit par tomber dans un hospice pour sans-abri, enfin je sais plus exactement, et qui finit par être cueilli par une riche américaine et sa cousine qui lui sert de gouvernante, incarnée par Jane Fonda. Elles vont le recueillir, l'habiller, c'est très important dans le film, le nourrir, lui donner du travail. Il va être un peu l'homme à tout faire et aussi passer d'un lit à l'autre, coucher avec ses deux femmes. Et le film vraiment construit Delon comme gigolo pris au piège du désir de ses femmes. Ensuite, il va y avoir une affaire de complot, de manigance contre Delon qu'on va vouloir éliminer. C'est l'inverse de Plein Soleil, en fait, le scénario des Félins. Le film montre très bien que Delon a été construit par le regard des femmes et que un sexe symbole, c'est quelqu'un qui ne se possède pas aussi quelque part. C'est plus facile pour un homme beau que pour une femme belle de sortir de cette image de sexe symbole, de construire sa carrière sur autre chose, là où beaucoup de femmes soit ont dû interrompre leur carrière comme Bardot, soit en sont mortes comme Jean Harlow ou Marilyn Monroe. Pour Delon, il y a eu une possibilité de raconter autre chose.
Le duo Clément Delon se forme une dernière fois pour une super production historique, Paris brûle-t-il, un film sur la libération de Paris en août 1944.
On les expédie où ?
En Allemagne.
À Buchenwald.
À Buchenwald.
Mais cette fois, Delon est noyé dans un casting français et international. Il y incarne le rôle du résistant gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Le gaulliste Delon en est ravi. Et le rôle lui convient d'autant plus que son personnage se paye le luxe de donner des ordres à un autre résistant, Yvon Moranda, joué par l'éternel frère ennemi, Jean-Paul Belmondo, évidemment.
Nous représentons les ministres du gouvernement provisoire. La trêve nous a au moins permis d'occuper les ministères. Il faut faire un pas de plus dans l'installation du gouvernement. Alors, en tenant une séance de conseil de cabinet, disons à 16h.
Pour cela, il faut prendre Matignon.
Pierlot pourrait s'en charger.
Matignon.
L'hôtel Matignon. C'est là que se tiennent traditionnellement les conseils de cabinet. Le général de Gaulle tient beaucoup à ce que les usages gouvernementaux soient dès à présent respectés.
Pensez qu'il faudra se bagarrer?
Eh bien, la garde de Laval y est encore. On ne sait jamais. 40 hommes suffiront, vous pouvez sûrement les réunir.
Un peu juste. Mais enfin, on doit pouvoir y arriver. Claire va téléphoner.
Oui.
Alors, messieurs, rendez-vous à 16h pour la séance du conseil.
À Matignon.
Ben voyons.
Le pur sang de Long poursuit sa chevauchée en ce milieu des années 60, ces années décisives, où il installe progressivement son personnage. Il rencontre ainsi un monstre sacré du cinéma français, le monstre sacré de l'époque, dont il se murmure alors que le pur sang est ni plus ni moins que son héritier. Ou quand Delon rencontre Gabin pour le film Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. Comme il l'a raconté en 1979 au micro de Selim Sasson de la RTBF.
J'ai tourné trois fois avec lui. Le premier film, ma première rencontre, a été Mélodie en sous-sol en 1964, je crois. Je l'ai retrouvé pour Le Clan des Siciliens en 69 ou quelque chose comme ça. Et puis, la dernière fois, c'était dans Deux hommes dans la ville, en 73-74. Ça a été très très bien tout de suite. Je veux dire, il avait quand même pris la peine de se renseigner un peu sur l'acteur que j'étais, sur le personnage que j'étais. Et la rencontre s'est très très bien passée. Je me souviens que nous sommes rencontrés dans le bureau du producteur, Jacques Barre, à l'époque. Et je suis arrivé après, parce que ça s'est trouvé comme ça. Et il était là, assis avec le producteur, à une table, avec sa casquette qu'il portait habituellement, une espèce de casquette de maître fermier. Et il s'est levé, il m'a tendu la main, il m'a dit « Bonjour, monsieur ». Je suis resté assez coincé, j'ai dit « Bonjour, monsieur Gabin ». Et puis, ça s'est très, très bien passé, je veux dire, et très, très peu de temps après, il m'appelait le môme, et il m'a toujours appelé le môme, d'ailleurs, et je veux dire, il a eu, si vous voulez, professionnellement, deux enfants spirituels, Céline Ventura et moi.
Mm-hmm. Bon, eh bien, je crois que « Mélodie en sous-sol », d'ailleurs, était un film important pour vous. Mais est-ce que vous n'avez pas racheté les droits de ce film?
C'est-à-dire que, non, j'ai pas racheté les droits de ce film, j'ai tourné le film, c'est une longue histoire, j'ai tourné le film pour rien. C'est-à-dire que j'ai dit, conscient, si vous voulez, de l'histoire et de l'importance du rôle par rapport à Gabin et avec Gabin, la maison de production, je veux dire, distribution mondiale, qui était la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque, a dit au producteur français, si vous voulez, Delon, prenez qui vous voulez, mais je ne vous donne pas un sou de plus. Donc, trouver une sorte de terrain d'accord, de terrain d'entente. On m'a fait part de ça. J'avais très fortement envie de faire le film et de faire ce film, justement, avant toute chose, à cause de la rencontre et de l'opposition avec Gabin. Donc j'ai étudié le principe et j'en ai trouvé une solution et j'ai dit écoutez, moi si vous voulez je fais le film pour rien, la seule condition c'est que vous me donnez à moi totalement le Japon, le Brésil et les pays de l'Est, l'URSS, etc. On a transmis ça à la Métro qui a fortement rigolé, on a dit c'est très bien, prenez-le, donnez-lui le Japon, donnez-lui le Brésil. Et finalement il s'est avéré par la suite, si vous voulez, que j'ai beaucoup plus gagné d'argent en revendant les pays que j'avais demandé que si on m'avait attribué un salaire, ce qui a fait a posteriori, s'étrangler les gens de la Metro Goldwyn Mayer, c'est devenu un événement. Ça.
Et je crois que pour vous, ça a été déterminant dans le succès fabuleux que vous connaissez au Japon. Oui. Les Japonais vous adorent.
Oui, c'est pas parti de là, mais c'est, je veux dire, disons que les Américains étaient très très mal renseignés, c'est parti de plein soleil, et ça ne s'est jamais arrêté.
Le film de Verneuil raconte une histoire de transmission, de passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau. entre la star d'aujourd'hui et celle de demain, entre un braqueur chevronné et un jeune voyou, unis pour dévaliser le coffre-fort d'un casino de Cannes, entre la réalité et la fiction, quoi de vraiment différent ? Dans Mélodie en sous-sol, Gabin recrute Delon, et c'est déjà tout un symbole.
J'aurais préféré avec cravate, mais enfin ça ira. Dis donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles.
Oh, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable.
Eh ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien.
D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois.
Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faves de ton nouveau pédigré.
Dis donc, Charles.
Oui.
Si je comprends bien, tu me mets sur un coup.
T'es pas d'accord ?
Tu crains pas de t'embarquer un peu léger, non ? Un an de cellule avec un mec, c'est pas forcément une assurance tout risque. Tu peux te gourer sur moi. Puis je suis pas sûr de pouvoir tenir ma place.
Moi, j'en suis sûr. Un tocard aurait dit oui tout de suite. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et à n'importe quel blot.
Et Delon de jouer à nouveau un personnage double, ambivalent. De petit délinquant sans envergure, il se transforme en un jeune fils de famille fortuné. Les deux rôles lui vont comme un gant.
Quoi dans mon cœur ?
Oh là, par terre, une tulipe noire ! Oh mon Dieu, que va-t-il nous arriver ?
Dans ce registre du double, à la même période, il va plus loin encore avec La Tulipe Noire de Christian Jacques, l'auteur mythique de Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe. C'est un film mineur, sans prétention, un capé d'épée, comme il s'en fait tant à l'époque, qui se déroule à la veille de la prise de la Bastille. Oui, mais Delon y incarne tout bonnement des frères jumeaux, Julien et Guillaume de Saint-Preux. En matière de copie conforme, qui dit mieux ? Comme si, décidément, chez Delon, le dédoublement était une seconde nature.
Julien. C'est merveilleux, tu n'as pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé.
Eh bien, Brignol, qu'est-ce que tu penses de ça ?
J'en crois pas mes oreilles. Il vous ressemble encore plus que dans la diligence.
Comment trouves-tu mon petit frère ?
Ah, lui, c'est un beau garçon.
Merci pour nous. Il est vrai que moi, avec ma balafre, il t'a raconté ?
Il m'a dit que tu étais blessé et que tu avais besoin de moi. Je n'ai pas pu en tirer un mot de plus.
Alors tu as voulu en savoir davantage et tu es venu par curiosité, quoi ?
Non. Je suis venu parce que tu es mon frère et parce que...
Eh ben parce que tu m'aimes bien, vieux lapin. Ben dis-le donc. Toujours aussi pudique, hein ? Une vraie petite sœur, mon petit frère.
Un an après, en 1964, rupture complète. Le cinéaste Alain Cavalier, pour son second film, L'Insoumis, choisit Alain Delon et lui fait incarner le rôle de Thomas, légionnaire déserteur de la guerre d'Algérie, qui, dans le cadre d'une opération menée par l'OAS, enlève une avocate proche du FLN, jouée par Léa Massari. Dialogue apaisé entre le ravisseur et sa victime.
Vous mettez une robe avec de grandes manches ?
Monsieur.
Il n'y a pas des gens que vous défendez mais qui vous dégoûtent ?
Non. Nous sommes un peu comme des médecins. On essaie de sauver, pas de juger.
Qu'est-ce que vous diriez si vous me défendiez ?
On bavarderait. Je vous demanderais de me parler de vous.
On raconte et vous arrangez les choses, c'est ça ?
J'essaie de comprendre, d'expliquer.
C'est ça. On vous dit par exemple qu'on s'est engagé parce qu'on a frappé sa mère.
Pourquoi l'a-t-on frappée? Parce qu'on était ivre?
Parce qu'elle vous a appris que votre femme vous trompait. On ne l'a pas cru. On s'est mis en colère. Puis la femme est partie. Et on est resté seul. Avec quelque chose qui braillait, qui vous faisait pipi dessus. Qui marchait à quatre pattes et qui était votre fille.
Comment s'appelle-t-elle?
Rose-Marie. Elle a 7 ans maintenant. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Tout ça, vous pourriez l'expliquer.
Et vous vous êtes engagé immédiatement?
J'ai attendu un peu, mais je battais mon chien. C'était mauvais signe. Si vous la quittez, monsieur le juge, elle sera sage.
Elle travaillera.
Oui, oui. Je vendrai du miel.
Rapolo,
s'il vous plaît.
Attention. Allons-y, Alain. Allons-y, Alain. Bon.
Alors, Alain, tu te retournes. Reste encore comme ça, Alain, avec ton journal. Reste avec ton journal encore. Tu peux le tourner maintenant. Cut.
C'est un acteur qui a une immense qualité.
Alain Cavalier.
C'est lorsqu'il entre dans un lieu, que ce soit un bar, que ce soit une montagne, que ce soit les toilettes d'un train, ce lieu, tout d'un coup, il a une certaine façon de s'en emparer. Parce que il sait bien prendre les objets, il sait bien regarder les choses, il sait bien s'asseoir, il sait bien marcher. C'est-à-dire qu'un lieu, lorsque Alain entre dedans, se met parfaitement à vivre. Il y a une espèce d'équilibre entre l'acteur et le volume de l'endroit qu'il a, cette espèce de don naturel qu'il a, et qui est, pour un metteur en scène, une chose très, très réjouissante à regarder.
La collaboration entre Cavalier et Delon n'est pas anodine. D'abord parce qu'elle permet à l'acteur de tourner dans un film très différent, avec un propos politique fort, loin des univers de Clément et Verneuil notamment. C'est d'autant plus vrai que Delon devient à cette occasion producteur à part entière. C'est le début d'une carrière parallèle, moins connue, au cours de laquelle le producteur Delon prend des risques et assume ses choix.
Tout le monde s'accorde pour dire que vous avez merveilleusement dirigé Alain Delon, mais je ne sais plus qui a dit que Cavalier a dû être gêné par le producteur Alain Delon. C'est une question indiscrète que je vous pose, mais c'est l'intérêt de la question et surtout de votre réponse.
Écoutez, moi, j'ai travaillé avec Alain Delon pendant 3 mois.
Oui.
Et il ne m'a jamais parlé d'un franc. Et quand il avait quelque chose de délicat ou de difficile sur les questions d'argent, il y a des bureaux de production qui sont en dehors du plateau. Et c'était un comédien qui quittait le plateau et puis qui allait dans un bureau très, très spécial et fait pour ça, pour discuter de choses d'argent. Oui. Et moi, je ne...
Oui, vous avez donc été maître de votre scénario entièrement.
Entièrement.
C'est vous qui avez fait ce que vous
vouliez. Entièrement, et je suis entièrement responsable de la première jusqu'à la dernière image, à part 2 phrases que la censure m'a demandé de couper.
De 1964 à 1990, il coproduit ainsi 32 films, dont Borsalino, de Jacques Deray, Monsieur Klein, de Joseph Losey, Mort d'un pourri, de Georges Lautner, ou bien encore Notre histoire, de Bertrand Blier. Le cinéaste Nicolas Parizère nous livre le regard qu'il porte aujourd'hui sur ce Delon qui devient producteur quand il s'aperçoit que, côté mise en scène, il ne pourra jamais être à la hauteur des cinéastes qu'il admire.
Il s'est dit, je veux être cinéaste, mais je ne m'occuperai pas de la mise en scène. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut être cinéaste et qu'on ne s'occupe pas de la mise en scène? Ben, on devient producteur. Mmh. Et moi, je pense qu'il y a un certain type de producteur, alors pas beaucoup, pas tous, mais il y a un certain type de producteurs dans l'histoire du cinéma qui ont été des artistes, qui n'ont pas voulu se coltiner le quotidien d'un tournage, les problèmes de tuyauterie qu'on peut connaître. Voilà. Ah, il faut attendre parce qu'il y a une panne de courant. Ah, il y a tel acteur qui est en retard. Enfin, voilà, il y a tout un tas de gens, ce genre de choses, ils veulent y échapper, mais qui ont une vision du cinéma et qui engage des réalisateurs pour ça. Et Delon est vraiment, je pense, quelqu'un qui est un cinéaste, qui est un artiste, qui a une sensibilité beaucoup plus affirmée que beaucoup d'autres réalisateurs de ces années-là, qui ont une réputation plus flatteuse que lui. Pour moi, Delon est vraiment un créateur, un artiste, et donc il va se servir, disons, du nom de producteur pour en réalité avoir un moyen de s'exprimer artistiquement, parce que tous les films où Delon joue et dont on voit que c'est des films qui ont tenu à cœur, il y a une unité thématique, une cohérence, de la même manière qu'il y a une cohérence dans les films de Truffaut, de Chabrol. Voilà, à mon avis, Delon est autant un artiste de cinéma que quelqu'un comme Truffaut, par exemple. Il ne s'exprime pas exactement au même endroit, pas exactement à la même place. Peut-être que Delon, c'est un peu plus anecdotique par rapport à Truffaut, parce que Truffaut a fait plus de films, qu'il a... Mais à l'arrivée, est-ce que le meilleur Delon est meilleur que le meilleur Truffaut ? C'est possible. Voilà.
Durant ces si fertiles années 60 que nous explorons, pour mieux appréhender les débuts fracassants de la carrière d'Alain Delon, l'acteur va même tenter une incursion américaine, avec 3 films en 2 ans. Les Centurions, de Mark Robson, Texas nous voilà, de Michael Gordon, et Les Tueurs de San Francisco, de Ralph Nelson.
Salut, Eddie. Quoi de neuf ?
C'est pas brillant. Je cherche à me faire embaucher. T'as rien pour moi ?
Tu sais, mon bateau est pas grand. Les gros chalutiers n'embauchent pas.
Non. Les équipages sont au complet.
Ouais, t'as pas le choix. Ou t'as ton propre bateau, ou alors tu bosses pour les autres.
Tu peux aller à Cassia Cosi ?
Tu vas avoir fini. Attends-moi, hein. Je te paye une bière.
Non, merci. Je dois rentrer chez moi. Ma femme commence à travailler ce soir.
La parenthèse hollywoodienne se referme toutefois rapidement. Qu'en retenir, sinon que Delon y donne la réplique à Jack Palance, Anne-Margret, Anthony Quinn et même à Dean Martin. De retour des États-Unis, Delon tourne sous la direction de Robert Enrico, un parfait film d'action destiné au grand public. Avec pour partenaire une grande gueule du cinéma français, Lino Ventura, dans le décor grandiose du Fort Boyard, et avec Johanna Chimkous, une partenaire féminine forcément ravissante, au destin tout aussi forcément tragique dans ce milieu d'hommes. Neuf années se sont écoulées depuis le tournage de Plein Soleil. Une décennie ou presque s'achève pour le pur sang de Long, et c'est avec un film devenu culte, La Piscine, de Jacques Deray. L'acteur y retrouve Romy Schneider et Maurice René, que son personnage tue comme dans Plein Soleil.
Tu es libre, tu sais. Entièrement libre.
Pourquoi me dis-tu ça ?
Tu le sais très bien. Ne te crois pas obligé de me tenir compagnie. Si tu veux monter, ne te gêne pas.
Non, ça va.
Va la voir si tu veux. Ne reste pas ici. Après tout, elle part demain.
Moi aussi, je vais partir. Demain ou après-demain. Ça me dit plus rien de rester ici.
Tu rentres ?
Oui.
Et moi ?
Tu fais ce que tu veux.
On y croise aussi Jane Birkin. Et puis un commissaire de police, joué par Paul Crochet.
Pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger.
Vous en prie.
Inspecteur Lévesque, de Marseille. Vous êtes bien, monsieur Leroy ? Vous savez, c'est purement et simplement de la routine. Mais à chaque accident, c'est la même chose. Je sais, c'est embêtant.
Mais les gendarmes sont déjà venus plusieurs fois.
Oui, ça je sais. Mais ils ont beau être minutieux, vous savez, ils oublient toujours quelque chose.
Je vous en prie, asseyez-vous.
Merci.
Tandis que le citoyen Delon se voit interroger au même moment et au sortir du plateau de tournage par la police, la vraie cette fois, à propos de la ténébreuse affaire Markovitch, du nom du garde du corps de Delon, retrouvé assassiné.
Ce matin, à 9h35, Alain Delon est arrivé au palais de justice de Versailles. Comme hier, il s'est rendu immédiatement dans le cabinet du juge Patard. Il en est ressorti, comme hier, peu après-midi. Et là, de nouveau, Alain Delon a subi l'assaut des journalistes. Et Pierre Debranche était là.
Bien, je ne vais pas vous poser la question. Hier, tout s'est bien passé, mais enfin, parlons encore un peu de l'ambiance. Toujours courtois.
Toujours courtois, mais il n'y a pas de raison.
Bien sûr. Moment. Et vous y retournez naturellement cet après-midi.
Cet après-midi, à 2h30, ce sera terminé ce soir.
Bien. Et par la suite, il est prévu un emploi du temps quelconque, non ?
Alors ça, je ne sais pas. Je crois qu'il faut poser la question à M. le juge.
D'accord.
Mais je pense qu'il y aura une confrontation courant avril.
Vous avez l'air très détendu, là.
Pourquoi pas ?
Alors, hier, vous étiez peut-être un peu plus nerveux, je sais pas. Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine forme.
En général, ça les intéresse de dire que je suis nerveux. Moi, pas. Enfin, l'enquête suit son cours et je fais de mon mieux pour aider la justice. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là.
Le pur sang vacille pour la première fois. Il sera blanchi, mais marqué à vie par une campagne de presse particulièrement calomnieuse à son encontre. L'écrivain Jean-Marc Parisi revient pour nous sur cet épisode décidément très sombre.
Stéphane Markovic, c'est un garçon yougoslave que Delon a connu, je crois, en 64 ou en 65, qui était un petit délinquant qui a fait de la prison. Et puis, quand il est sorti de prison, Delon l'a littéralement pris sous son aile. Alors, on a dit, effectivement, c'était son garde du corps, c'était son factotum, il s'occupait d'un peu tout dans son hôtel particulier de l'avenue de Messine, et c'était une forme d'amitié. Ouais. C'était sa doublure lumière sur certains films. Voilà. C'est ce côté, Delon n'a jamais renié, comment dirais-je, ses amitiés d'adolescence, en fait, en quelque sorte. Voilà. Il était attiré par la marge. Hein. Markovic fréquentait des gens plus ou moins fréquentables, plus ou moins dangereux. Et on le retrouve mort en septembre ou en octobre 68. Voilà. Dans une décharge publique, dans les Yvelines. Et là, l'affaire prend de l'ampleur quand on s'aperçoit que c'est évidemment l'ami de Delon, en fait, en quelque sorte. Mmh. Et là, je ne vous dis pas, on le sait tous, les heures de garde à vue, les insinuations, complicité d'assassinat, etc. Évidemment, tout ça, c'était en partie du roman. On n'a jamais rien pu prouver. Et il est bien évident qu'il y a eu un avant et un après. Là aussi, Delon s'est durci à partir de ce moment-là. Mmh. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai pas mal travaillé sur la question. Quand on regarde les couvertures de détectives à l'époque, c'est terrible. C'est terrible. Je veux dire, il y a des insinuations terribles contre Delon. Alors que, qu'a priori, il n'y a rien. Il n'y a rien contre lui là-dessus. Voilà. Et il faut imaginer Delon en garde à vue, face aux policiers qui l'ont vu dans le samouraï.
L'effet de miroir avec la réalité est d'autant plus saisissant que dans le samouraï, Delon incarne Jeff Costello, un tueur à gages que traque à la fois un commissaire de police, joué par François Perrier, et d'autres truands envoyés par des commanditaires inquiets. Fiction, affiche de film, mort violente bien réelle, lieu de tournage et vrai commissariat, tout se mélange alors et se télescope dans la vie de Delon. Pour clore ce deuxième épisode, on est tenté d'évoquer un film de Marcel Bluval, Carambolage, sur un scénario de Pierre Tchernia et des dialogues de Michel Audiard, sorti en mai 1962. De Funès, Brialy et Serrault en occupe les premiers rôles. Le jeune Alain Delon n'y apparaît qu'à la toute fin, à la dernière minute même. Et cette apparition glace les sangs du personnage de Brialy, qui joue son patron, lequel y voit sa fin prochaine et la relève déjà assurée par cette insolente beauté. Une fois de plus, Delon, le fringant pur sang, c'est le double d'un autre, identique et différent à la fois, et c'est aussi celui devant lequel il faut s'effacer et qui laisse tous les autres derrière lui.
Dites-moi, jeune homme, bien que vous ne fassiez pas partie des cadres, peut-on connaître votre opinion ?
Mais la même que la vôtre, monsieur le directeur général.
Ah, Comment vous appelez-vous ?
Lambert, monsieur le directeur général. Je travaille au rez-de-chaussée.
Je l'aurais parié.
Vous pouvez disposer, monsieur.
J'ai dit, vous pouvez disposer.
C'est que j'ai une requête à vous adresser, monsieur le directeur général.
Vous mariez le mois prochain ?
Oui. Et monsieur Macheperon, dont vous avez remarqué l'absence, prématurément usé par ce qu'il appelle les tragiques événements, doit prendre sa retraite anticipée dans 15 jours. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être solliciter de votre haute bienveillance
une attestation de votre future promotion.
Voilà.
Bon, ben, je vais y réfléchir. Allez, mon petit.
Merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup.
Et parallèlement, le pur sang se fait également italien. Car en même temps que Clément est cavalier, il eut aussi Visconti et Antonioni. Et cette complicité transalpine durera bien des années. Mais c'est une autre histoire, celle du prochain épisode.
C'est vrai que ma carrière, je dirais, est née entre 59 et 63 à Rome. J'ai des souvenirs très précis qui m'ont bouleversé d'ailleurs. Les Italiens dans la rue m'appelaient Rocco.
Delon par Delon est un podcast original de France Inter proposé par Laurent Delmas. Et mise en onde par la guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la samouraï Karen Day, de la tulipe noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage Basile Bocquer et Nicolas Bonnet. Avec eux, avec nous.
Avec moi.